Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 20 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine, la gastronomie à table, Kitchen Conversations. Il est 13h, c'est l'heure du journal. D'abord, les grands titres de ce 20 février. Les États-Unis affirment que les forces russes sont sur le point de frapper l'Ukraine. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le tir au laser contre un avion australien par un navire chinois était, je cite, « un acte d'intimidation ». La skieuse acrobatique Sammy Kennedy-Sim, nommée porte-drapeau de l'Australie pour la cérémonie de clôture des JO d'hiver de Pékin ce soir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé son homologue russe Vladimir Poutine à le rencontrer et à chercher une solution à la crise entre les deux pays. S'exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le président ukrainien a accusé la Russie de provocation et de mensonge et implore les nations occidentales d'agir maintenant.
But you are telling me that 100% the war will start in a couple of days. Then what are you waiting for? We don't need your sanctions after the bombardment will happen, after our country will be fired at, or after we have no borders. We will have no economy, and part of the country will be occupied. Why would we need these sanctions then?
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, avait ses propos pour la Russie si elle envahissait l'Ukraine.
Make no mistake, the imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable. And we will not stop with economic measures. We will further reinforce our NATO allies on the eastern flank. In fact, together, we have already taken steps to strengthen our deterrence and collective defense.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a indiqué que l'Australie n'enverrait pas de troupes en Ukraine en cas d'invasion, mais fournirait une assistance pratique aux alliés. Et puis, Scott Morrison a déclaré que l'utilisation d'un laser par un navire de guerre chinois contre un avion militaire australien était, je cite, « un acte d'intimidation ». Le ministère australien de la Défense a déclaré que l'incident s'était produit jeudi dernier lorsque le navire chinois a illuminé un avion P-8A Poseidon dans les eaux australiennes de la mer d'Arafura. Les responsables de la défense ont condamné cet incident, affirmant qu'il mettait en danger la vie des militaires australiens. Scott Morrison a décrit cette action comme imprudente et irresponsable et déclare que l'Australie parle directement avec la Chine par les voies diplomatiques.
I'm very concerned about the actions though of using the lasers on an Australian surveillance aircraft. That is, I can see it no other way than an act of intimidation, one that is unprovoked, unwarranted, and Australia will never accept such acts of intimidation.
Le sénateur libéral James Patterson a défendu les attaques de son gouvernement contre le bilan des travaillistes sur la Chine. La coalition a intensifié la pression sur les travaillistes sur la question dans le but de mettre l'accent sur la sécurité nationale avant les élections fédérales. Mais le directeur général de l'ASIO, le service de renseignement en Australie, Mike Burgess, qui a déclaré cette semaine que l'utilisation de son agence à des fins politiques n'était pas utile et a soulevé des inquiétudes quant à l'utilisation de documents classifiés dans le débat public. Le président de la commission parlementaire mixte sur le renseignement et la sécurité, James Patterson, a déclaré sur l'ABC qu'il pensait que l'avertissement de Mike Burgess s'adressait à tous les partis politiques et qu'il tenait compte de son avertissement.
I take his warning very seriously. I think there've been a range of references to classified material both in the parliament and in the media from a range of sources, and we should be very mindful of the warning that he makes. And I understand why he has that anxiety as an ASIO director general. If you look at the history of ASIO, it was in the past a political football. It did become politicized.
9 personnes atteintes de COVID-19 sont décédées dans le Victoria avec 4867 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce dimanche. Il y a 358 personnes hospitalisées avec le virus. Le Victoria devrait ouvrir sa nouvelle installation de quarantaine spécialement conçue à Mickleham à partir de demain, lundi, le même jour que les frontières internationales du pays rouvriront aux touristes. S'adressant aux journalistes à l'aéroport international de Melbourne, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que ce sera une période passionnante.
And we can start building once again our very important tourism economy here right across the country. From our biggest cities where I am today to our far north Queensland regional locations and all around the country in the top end where I was yesterday up in Darwin and central Australia in Alice Springs. Tourists are coming back. That means those jobs become more certain going forward. Those earnings start to roll back into the country again, and we start building up again as we push through this pandemic and we come out confidently on the other side.
21 personnes atteintes de COVID sont décédées en Nouvelle-Galles du Sud depuis hier. Il y a maintenant 1280 personnes atteintes du virus à l'hôpital. L'État a également enregistré 5582 nouvelles infections depuis hier. Le nouveau gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, annonce qu'il fournirait 8 autres tests antigéniques rapides aux élèves et aux enseignants. Les tests seront livrés en 2 phases et peuvent être utilisés par les familles à leur discrétion. L'ancienne Australienne de l'année, Grace Tame, a critiqué les médias australiens pour avoir tenté de la discréditer en publiant une vieille photo d'elle avec une photo de 2014 la montrant avec une pipe à eau communément appelée bong. La photo a été maintenant supprimée sur son compte Instagram. Mademoiselle Tame s'est adressée sur Twitter pour exprimer sa déception face à la publication de la photo, affirmant que cette photo la ciblait à la fois en tant qu'individu et en tant que survivante d'abus sexuels. Elle dit qu'elle a été transparente sur ce qu'elle a été confrontée à la suite d'abus sexuels sur des enfants, la toxicomanie, l'anorexie et le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, et les médias n'ont pas écouté. Mademoiselle Tame déclare que les survivants craignent que les autorités ne se concentrent sur la consommation de substances au lieu des complexités plus larges de la manipulation psychologique qui sont, je cite, « beaucoup plus difficiles à prouver et à expliquer ». En France maintenant, avec le défi des élections présidentielles, c'est l'abstention. Le gouvernement français lance dès le 25 février prochain une campagne d'information pour favoriser l'inscription sur les listes électorales. 6% des Français ne sont pas inscrits, selon le Premier ministre Jean Castex. La date limite, c'est dans 10 jours. Reportage Tanguy Romain et Claire Hélou pour RFI.
Bonjour. Est-ce que vous allez voter ?
Oui.
Tract dans la main et pancarte autour du cou, Laurine est responsable communauté dans l'association Tous Élus. Elle alerte sur la malinscription.
Il faut savoir que quand même la malinscription, c'est le premier facteur d'abstention en France. C'est une personne qui en fait va être pas inscrite sur le bureau de vote qui correspond à son lieu de résidence.
Un phénomène qui touche d'abord les jeunes. Dans la catégorie des 25-29 ans, une personne sur deux serait dans cette situation. Fabio, bénévole à la primaire populaire, est venu donner un coup de main.
Des fois, ils ne suivent pas, ils n'ont pas voté pour des années, ils se réveillent la veille et ils ont déménagé aussi. Il y a plein d'étudiants qui ont une vie instable, qui bougent de droite à gauche.
Lola et Hugo, 28 ans, confirment.
Il y en a plein où t'as la flemme de bouger.
Nous, par exemple, on vient de Bordeaux, on a plein de potes qui sont encore inscrits à Bordeaux et pas à Paris. Donc du coup, ils votent pas.
Pour éviter cette situation, Laurine souhaite, grâce à la campagne Tous Inscrits, accompagner ces jeunes.
Nous, ce qu'on propose, c'est du coup des sessions de 15 minutes. On en propose toute la journée de 8h à 20h où les personnes viennent s'inscrivent à travers la plateforme et ils choisissent quand est-ce qu'ils veulent faire ces 15 minutes.
L'objectif, les aider à changer de bureau de vote. Cette année, les démarches ont été facilitées et sont désormais possibles sur Internet.
Au Canada maintenant, avec la police qui a repoussé les manifestants à Ottawa après avoir arrêté plus de 100 personnes et remorqué des dizaines de véhicules hier, les policiers en tenue tactique ont gagné du terrain dans l'une des plus grandes opérations policières de l'histoire du Canada, avec des agents provenant de partout au pays. Les autorités se sont avancées devant le bureau du Premier ministre près de la colline du Parlement, qui est occupée par des camions et des manifestants depuis fin janvier. La vice-première ministre Chrystia Freeland avertit les gens que leurs comptes bancaires seront gelés et leur assurance suspendue si leurs camions sont utilisés dans des manifestations. Madame Freeland déclare que le Canada est menacé.
Our economy and our democracy are facing a serious and foreign-funded threat. These illegal blockades and occupations cannot be allowed to usurp the authority of democratically elected governments. They cannot be allowed to threaten peace, order, and good government, and they will not be allowed to do so. These illegal blockades and occupations will end, and they will end for good.
Au Mali maintenant, avec un rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Bamako hier pour manifester leur joie suite au départ annoncé des forces françaises du Mali. Reportage Kaourou Magassa pour RFI.
Face à une scène, une foule de manifestants remplit le versant nord de la place de l'Indépendance pour une mobilisation moins importante qu'annoncée. Perpétue Ourogon, enseignante, fustige, je cite, le peu de résultats de l'intervention Barkhane. Elle est amère et pressée de voir les contingents français quitter son pays.
La France nous a déçus. Dès aujourd'hui, ils n'ont qu'à plier bagage. On a assez avec cette armée française. On n'a pas besoin de la France.
La Russie, tout comme son drapeau, présent dans l'Assemblée, est brandi comme le nouvel allié. Placé sous le signe de la victoire, ce meeting se veut une célébration. Mais c'est surtout une rupture qui est fêtée au son de la chanson « Armée française » d'Alpha Blondy.
En 2012, quand la France venait libérer Conan, on était tellement contents qu'on a même baptisé des enfants au nom de François Hollande. Mais si tu vois aujourd'hui que ce même peuple se lève encore pour dire « Allez-y », ça veut dire que la France a failli.
Sur l'estrade des officiels, un large sourire traverse le visage de Drissa Mimenta, l'un des cadres du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Pour lui, le retrait militaire français ne signe pas la fin de son organisation.
Nous nous battons contre la politique française. Et dans cette politique, il y a la monnaie, il y a la langue et il y a plusieurs d'autres aspects. Nous allons continuer à nous battre.
Des arguments qui ont émaillé la plupart des discours d'une manifestation qui s'est achevée peu avant la tombée de la nuit.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 36 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 26. Hobart, 25. Canberra, 26. Sydney, 29. Brisbane, 30. Cairns, 32. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Les États-Unis affirment que les forces russes sont sur le point de frapper l'Ukraine. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le tir au laser contre un avion australien par un navire chinois était, je cite, un acte d'intimidation.
Vous aimez le
programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et on passe au journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord les JO de Pékin, aux JO d'hiver de Pékin, avec un Néo-Zélandais qui est le roi du half-pipe, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour RFI.
Effectivement, il n'a pas, lui, été gêné par le vent qui a également soufflé assez fort sur ce half-pipe. Nico Porteous, néo-zélandais de 20 ans, champion du monde en titre, qui devient donc champion olympique avec 93 points sur 100 sur sa notation. Il a devancé deux Américains, David Wise et Alex Ferreira. Quant au Français Kevin Roland, qu'on attendait évidemment avec une certaine impatience, eh bien, il n'a terminé que sixième avec un run, comme on dit, un troisième run à 79.25, de bonne facture, mais pas assez impressionnant techniquement. Il n'a pas pris tous les risque Kevin Roland, ça se comprend lorsqu'on se souvient de son grave accident qui avait failli lui coûter la vie il y a 3 ans, une très lourde chute sur une tentative de record du monde en hauteur, de l'hôpital, de la rééducation ont suivi, personne ne le voyait revenir à la compétition et encore moins au JO, il y est tout de même parvenu et c'était l'essentiel pour lui pour finir sur une bonne note cette carrière avant de tourner la page de la compétition de haut niveau.
Le Français Kevin Roland est arrivé 6e dans cette épreuve, on l'écoute sur RFI.
Énormément de plaisir d'être au départ avec le sourire, avec une pression qui était relativement moins importante, parce que c'est vrai que c'est que du bonus un petit peu d'être ici, même si mon objectif c'était de faire bien et d'essayer de, encore une fois d'aller grappiller des places pour pourquoi pas aller chercher une médaille. Mais aujourd'hui j'ai pris la sage décision de faire les choses correctement et maîtriser. J'aurais signé direct sur mon lit d'hosto il y a 3 ans pour être 6 ou 7 ou même 8 ou finaliste des Jeux Olympiques. Donc, objectif rempli. Maintenant, on va profiter de la vie, de la famille, des amis et du ski.
Et tout à l'heure, dans notre série Personnages, vous allez entendre comment un Belge a remporté pour la première fois depuis 1948 une première médaille d'or pour la Belgique. On passe au foot avec la Ligue 1 en France et la nouvelle que Paris a été battu par Nantes 3-1 après sa victoire contre le Real de Madrid il y a à peine quelques jours dans le cadre de la Ligue des Champions. Lens et Lyon ont fait match nul, 1-2 comme nous l'explique Tom Rossi pour RFI.
Le Lyonnais Kadewere a répondu à Klose sur une passe décisive de Karl Toko Ekambi, le Camerounais qui espérait mieux après une belle victoire contre Nice la semaine dernière.
On n'est pas bien entré dans le match, on a encaissé un buteau. Mais après, globalement, on a dominé le match. On n'a pas réussi à trouver la faille. On sait qu'ils sont difficiles à jouer, ils ont beaucoup d'énergie, ils font beaucoup de courses. Et on n'a pas réussi à marquer le deuxième but, on a eu les occasions. Malheureusement, on ne les a pas mises, mais en tout cas, on va prendre ce point.
Karl Toko Ekambi, son prime vidéo, Lyon provisoirement 5e et Lens 8e avant la suite de cette 25e journée de Ligue 1.
On passe maintenant en Angleterre pour la 26e journée ce week-end. Le bilan avec Thomas de Saint-Léger et Tom Rossi pour RFI.
Tom, retour aux bonnes vieilles habitudes à Liverpool. Sadio Mané et Mo Salah ont illuminé l'après-midi des Anglais.
Le Sénégalais champion d'Afrique d'un très beau retourné et l'Égyptien vice-champion d'Afrique. Une action de grande classe pour enrhumer les défenseurs et le gardien. 3-1 face à Norwich et 150e but avec les Reds pour Mo Salah, le pharaon qui a dû beaucoup apprécier le geste de son coéquipier Sadio Mané avant le match. Le Lion a refusé que son sacre à la CAN soit célébré en grande pompe par les supporters aujourd'hui, histoire de ne pas perturber l'Égyptien. Et cela a fonctionné. 8e victoire de suite, toute compétition confondue pour ces Reds. Et ces Reds, ils sont solides 2e sixième de Première Ligue. Il compte 7 points d'avance sur Chelsea, vainqueur 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace. But du Marocain Ziyech à la 89e minute.
Et maintenant, Liverpool peut regarder devant, Tom. Hein.
Les Reds se rapprochent du leader Manchester City. City qui est tombé à domicile face à Tottenham au terme d'une fin de match folle. Défaite 3-2 des Citizens. Et il y avait 2-1 pour les Spurs à la 91e minute. Égalisation de l'Algérien Mahrez sur penalty à la 92e. Avant le but de la victoire d'Harry Kane à la 95e. Doublé pour l'Anglais, synonyme de 3e défaite pour City cette saison en championnat. Les hommes de Guardiola ne comptent plus que 6 points d'avance sur Liverpool après cette 26e journée. Mais les Reds comptent un match en moins. La Première Ligue est loin d'être pliée.
En Espagne, la 25e journée marquée par la victoire du Real de Madrid contre Alavés. 3 buts à 1. En Italie, l'AC Milan, premier au classement, et Salernitana ont fait match nul, 2 buts partout. On passe au cyclisme, le Tour du Rwanda, c'est à partir de ce dimanche, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger et Laure Broulard, qui est sur place pour RFI.
19 équipes au départ pour 8 étapes, en tout près de 1000 km, plus de 15 000 mètres de dénivelé positif, un parcours, Laure, comme l'année dernière, dessiné en étoile autour de Kigali.
Oui, et c'est la faute au Covid-19. Le protocole sanitaire exige encore une fois que les coureurs rentrent tous les soirs dans le même hôtel. Le tour démarra avec un contre-la-montre de 4 km autour de la Kigali Arena, le stade de basketball de la capitale rwandaise, et finira en haut de la colline de Rebero, à Kigali également. À noter cette année, le retour d'une étape jusqu'à Rubavu, au bord du lac Kivu, première étape véritablement difficile de ce tour. Comme d'habitude, la course favorisera les grimpeurs, puisque plus de la moitié des étapes présentent plus de 2000 mètres de dénivelé. Il y aura 31 ascensions en tout, dont celle des célèbres monts Kigali et murs de Kigali. Une chose est sûre, l'ambiance sera très différente de l'année dernière, puisque le public, qui avait été interdit en 2021 à cause du Covid-19, pourra cette fois-ci venir encourager les coureurs. Écoutez la réaction de Freddy Kamuzinzi, le directeur du Tour.
Ça apporte beaucoup de motivation pour les coureurs. J'ai envie de crier ma joie, j'ai envie de crier la joie de tous les Rwandais, la joie de tout le monde dans l'organisation et également dans tous les spectateurs. Et on est très impatients à se retrouver sur les routes et faire face au public.
Côté coureur, Laure, pas de grandes nouveautés, mais on va retrouver les têtes d'affiche des années précédentes.
Tout à fait, avec une deuxième participation pour les Français Pierre Roland, vainqueur de l'Alpe d'Huez au Tour de France, et pour Alexandre Geniez. L'Érythréen Mektel Eyob, qui a déjà gagné 5 étapes au Rwanda, sera également de la partie, tout comme l'Algérien Azzedine Lagab, véritable habitué des routes du pays des Mille Collines. Seront présents également deux anciens vainqueurs du Tour, Samuel Mugisha, le dernier Rwandais à avoir remporté le classement général en 2018, et Nathanaël Tesfation, maillot jaune 2020, bien décidé à rafler une nouvelle fois la victoire avec son équipe Drone Hopper Androni.
Le Tour de Rwanda, ce n'est pas facile. Ça ne fait que monter et descendre, mais j'ai 4 coureurs avec moi et ce sont tous de grands grimpeurs. Je suis venu déjà parce que c'est un bon entraînement, mais surtout pour gagner la course.
Du côté des équipes, la Grande-Bretagne sera représentée pour la première fois en catégorie espoir avec des coureurs de moins de 23 ans menés par Léo Aïter. Au départ de la course également, des équipes habituées à courir de grands tours, comme Israël Premier Tech et les Français de Total Energy et BNB Hotel. Le Rwanda sera quant à lui représenté par son équipe nationale et l'équipe continentale Bénédiction Ignite, qui tenteront de renouer avec la victoire. L'équipe nationale érythréenne, dont les jeunes se distinguent régulièrement sur le tour, sera quant à elle la grande absente de cette édition.
Et cette année, il y aura aussi un invité de marque au départ de la course, Laure, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est pour la première fois en visite à Kigali.
Christian Prudhomme est déjà allé visiter le centre Africa Rising, centre d'entraînement de l'équipe nationale rwandaise dans la ville de Musanze. Il livre ses premières impressions.
Ce que je sens, c'est l'envie, sans le moindre doute, avec une vraie perspective. 2025, championnat du monde, et ça n'est pas rien. Avec un terrain, encore une fois, qui est un terrain idéal pour faire briller les champions, les Wout van Aert, les Mathieu van der Poel, les Julien Lafilippe, je pense que s'ils étaient ici, en voyant les parcours qui peuvent être proposés, ils seraient plutôt très contents. Donc j'ai envie de regarder ça de près, et puis de voir aussi l'émergence d'un cyclisme qui ne demande finalement qu'à éclore.
Le directeur du cyclisme chez ASO assistera aux deux premières étapes du Tour et se dit impatient de découvrir la ferveur du public et de profiter des vues imprenables sur les collines rwandaises.
Un mot de tennis pour vous dire que la finale de Montpellier, c'est ce dimanche entre Oger Aliassim, le Canadien, et Rublev, le Russe. À Dubaï, hier, la Lettonne Ostapenko a battu Kudermetova, la Russe, 6-0, 6-4, en finale. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Nous revenons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Notre personnage de la semaine, il est belge, le flamand Bart Swings, qui a remporté hier samedi au JO d'hiver de Pékin la médaille d'or de la Mass Start en patinage de vitesse. 16 tours de piste, 6400 mètres, c'est la deuxième médaille d'or seulement de la Belgique au JO d'hiver depuis celle en 1948 à Sint-Moritz. Il y a plus de 70 ans donc, du couple Micheline-Lanois et Pierre Bonnier en patinage artistique. L'exploit de Bart Swings, nous y revenons avec des sonores de France Télévisions et de la RTBF.
Bart Swings, Bart Swings, Bart,
oh oui,
Bart Swings, incroyable,
oh oui,
incroyable Bart,
incroyable course de Bart Swings qui avait plusieurs cartouches.
Bonjour à tous, ce n'est que la seconde fois que cela arrive dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. La Brabançonne va résonner après la médaille d'or de Bart Swings en patinage de vitesse.
C'est lui qui a ramené tout le monde à chaque fois et il avait encore la cartouche pour le sprint final. Magnifique Bart Swings, le
Belge. Incroyable course de Bart. Ah là là, le meilleur, on peut dire, c'est pas toujours le cas en Mastart, mais là aujourd'hui le meilleur a gagné. C'est incroyable ce que Bart vient de faire. Il a contrôlé le peloton. Il a eu la chance que Jorrit Bergsma lui envoie le sprint. Je pense que sans ça, ça aurait été compliqué. Et surtout, il vient passer Sangonli dans la dernière ligne droite. Vraiment fabuleux ce que Bart vient de faire là.
Le Belge s'est en effet imposé. Le récit, Thomas Michels.
On est dans le dernier tour de cette
attention,
Mancia,
attention,
il y a toujours
Mancia,
la possibilité d'une médaille pour la Belgique. Bart Swings qui est en train de passer devant.
Oui,
il va aller chercher le titre,
oui,
Bart Swings.
Médaille,
il est champion
d'or,
olympique.
Médaille d'or.
Exceptionnel. Bart Swings est champion olympique.
Bart Swings en or après une course parfaite en patinage de vitesse. Le Belge a réussi à gérer les 6400 mètres du départ groupé pour venir décrocher sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver.
Puisqu'à Pyeongchang, il était deuxième derrière Lee et cette fois Bart Swings, champion olympique de la Mass Start et plus que jamais le meilleur homme de la planète sur cette discipline si particulière. Lui aussi qui vient du roller et il a montré tout son sens tactique et aussi cette superbe présence physique pour tout faire, ou presque, pendant la course.
Là, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un numéro magistral de Bart Swings. Très, très belle course.
Visage de poupon, Bart Swings, 30 ans à la banane. Il avait ramené une médaille d'argent en Mass Start de Pyeongchang, en Corée du Sud. L'histoire de notre champion a débuté il y a 22 ans, mais pas sur la glace. Bart Swings s'est lancé dans une discipline plus discrète qu'il pratique toujours l'été, avec de nombreux succès à la clé. Étudiant ingénieur, Bart va terminer son parcours universitaire cette année. Il s'entraîne avant les Jeux dans un des plus beaux complexes du monde à Heerenveen, aux Pays-Bas, car il n'y a pas de telles infrastructures en Belgique.
Bart was skating so strong, like he counted us, like time after time, and yeah, he wins the race here in the sprint, and yeah, he was the best today, so well deserved.
Bart Swings.
Après avoir obtenu l'argent il y a 4 ans, Swings monte désormais sur la plus haute marche du podium, entouré de deux Coréens. Avec l'étiquette de favori, le Louvaniste a réussi à créer l'exploit.
Ce n'était pas une surprise, mais on le sait qu'au JO, les favoris, il n'est pas rare que les favoris ne gagnent pas, que ce soit en patinage vitesse ou dans d'autres disciplines. Ici, il a assumé sa responsabilité pendant la course et il a sorti un sprint de tout haut niveau qui lui a permis de gagner, je dirais presque facilement.
Grâce à cette victoire, Bart Swings devient le premier Belge de l'histoire à remporter 2 médailles aux Jeux d'hiver.
h 36 sur les ondes de Radio SBS. Je passe maintenant l'antenne à ma collègue Audrey Bourget pour un nouvel épisode de À table Kitchen Conversations.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget, de retour avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on se rend à Camberwell, en banlieue de Melbourne. C'est là qu'on retrouve la pâtisserie Sucre du jour, qui mélange avec brio influence française et asiatique. On a rencontré le chef pâtissier et copropriétaire, Agenting. Durant ses études de cuisine en Malaisie, Agenting n'avait de l'intérêt que pour une chose, les desserts.
I'm French trained. I really enjoy the French pâtisserie and seeing how it has evolved over the time to what it is today, in the sense that it's more defined. It's very different from the Australian style, if you've noticed. So it's a more fresh, a lighter flavor. It's not too rich, but very seasonal, you would say it. So it's something I really enjoy.
Après ses études, il travaille comme chef pâtissier à Singapour sous la tutelle de plusieurs excellents chefs, dont Joël Robuchon. Une expérience intense mais enrichissante.
Very intense. I'm not gonna lie. I'm sure if you met other chefs, you've worked with him. Very intense. Obviously, everything's precision. Everything's very detailed. Discipline is something we learn along the way. Obviously, very, very important.
Il arrive ensuite à Melbourne où il travaille à l'Hôtel Gitan. Mais depuis le début de sa carrière, il n'a qu'une chose en tête, ouvrir sa propre pâtisserie.
I'm not gonna lie, every chef wants to do their own thing, not gonna lie. Who doesn't want to do their own thing? But at that point, when I was in Melbourne along the way, along my working years, I did travel a fair bit to Europe. I did travel not only Europe, actually, like Japan and quite New York. And seeing how, the thing about being in a restaurant is that the pastry chef never really gets the highlight, never really gets the full chance to showcase their talent and skill. Obviously, it's more for the cuisine chef, which is fair, it was totally fine. And then having your own patisserie is being able to translate your own kind of style, your own kind of products to your customers in your own way and in your own fashion. And that is something that has always been my dream to start with. Just to be able to share what we really like and what we really can do to our guests and our customers. And so that developed along the way.
En juin 2020, son rêve prend forme. Avec sa partenaire Josephine Tan, ils ouvrent les portes de Sucre du jour à Camberwell.
As you know, that Sucre du jour is not a word. You don't see it in France, you have it. But we got the idea because our style my style when we do it, is we just keep creating things on and off the menu changes. I won't say menu changes, but new products just keep coming on whenever we like. So it came similar to what the restaurants do, like, you know, their menu du jour, they have for the special of the day. And then because our style keeps, we keep introducing new products here and there. So we're like, why don't we do that du jour thing for sweets? And then we combined it together, and I'm like, well, it seems to have a nice ring to it. And then that we stick true to that style until today. We make sure that we come up with new products along the way. You change the menu pretty often as opposed to a lot of other pastry shops that you'll see. Like what you see in France, really, how fast they introduce new cakes, they go with the seasons, they just keep the customers engaged. So you won't really see one cake sticking around for like 2 years. We do our best to just keep rotating stuff like that. And that's how that name came about.
Chez Sucre du jour, Agenting marie son amour de la pâtisserie française et des saveurs asiatiques. Celles avec lesquelles il a grandi, mais aussi celles qu'il a découvertes durant ses voyages.
What really, kick-started the whole style was when we traveled to Japan. Not only France, don't get me wrong, like Japan, we noticed the patisseries there has this really, style that they share in common. It's very light, very fruity, not as opposed to what we used to get here in Melbourne or in Australia. It's like a lot of, it's really rich, really fattening, a lot of coloring, I'm not dissing out on any of the juices, but this is just the style that we tend to follow. Too much coloring, it's too much mousse and too much cream, too sickening because it's either too much chocolate. And then so we said, no, that's not the style that we enjoyed when we traveled. Like we went to France, so, you know, you could see every patisserie having, like, obviously being summer, you have a bountiful of fruits all around the shop. And it's the using nature's own beautiful ingredients and products. You just highlight it in that way. Being a chef, you utilize it and we highlight it. So we adopted that style and we brought it to our shop. We use not being Malaysian background, we had the heavy influence of a lot of different Southeast Asian flavors that we take into our we put on board our shop, but also we use a lot of Japanese, Korean flavors of what we see is trending, and we just try to incorporate it. And also during our travels to Europe, we've noticed that in Europe they've actually started to get a lot of this Asian influence in their product. You see a lot of them using like Sichuan pepper from like even Sarawak black pepper. Obviously, pandan, not too crazy. And durian, obviously, because they can't replace cheese with durian. But that's just, you only can choose one. But even some start to see using taro, sweet potato. I've seen in some of the pastry shops, not too much, but like chestnuts being there, but you incorporate the chestnut with a lot of other Japanese flavors, like a mix of the purple sweet potato. We've seen that happen as well. So we just try to have that in our shop, in our business as well. And obviously me being Southeast Asian background, I would say it's a lot easier for me to do that because I grew up with all those flavors. So a lot of people say, like, are you restricted to just Southeast Asian flavors? I would say no, because we did use other like heavy French flavors, like we were using tonka flavor and the very classic vanilla and salted caramel.
Il recommande sa tarte au citron qui n'a rien de traditionnel.
Called it the limon tart because it's lemon and lime, but also it has yuzu. So as you see in most patisseries, you need to have a lemon tart, but everyone here does it the same. So it's either baked custard, which is I find the Austrian style, or else if you go to France, you'll see everyone uses a nice, very light curd. So we did it for me. We said you need to have a lemon tart, but we need to make sure it's not the same as everyone else. So we said, why don't we combine all the citrus fruits we can find, lemon, lime, and yuzu, and which we did. So that's definitely our signature dessert that we will live and die with. We will never take it off. It's got a good balance of lemon marmalade. We use the whole lemon. So we use the whole fruit by itself. We don't just use the puree or the juice or just the zest. We use the peel. We make a jam from it. We use the actual flesh. We slice it up and we cook it to make a candied lemon. And we use the juice in addition to yuzu juice to make a curd. And we use a lime aroma and lime zest to make a lime shanty. Like you'll taste the full flavor of citrus inside.
Chez Sucre du jour, vous pouvez aussi essayer une babka matcha et sésame, un croissant litchi framboise ou une tarte aux noix de macadamia et céréales. Au départ, il n'y avait que Hagen et Joséphine derrière le comptoir de Sucre du jour, mais l'équipe s'est agrandie de plusieurs chefs dans la dernière année et demie. C'est parce que les habitants de Camberwell ont accueilli Sucre du jour à bras ouverts.
Our customers come back a lot, so we're really very grateful for that. It's good to see people really enjoy eating cake. That's something I really enjoy.
Vous pouvez retrouver Sucre du jour au 436 Burke Road à Camberwell et sur le web au sucredujourofficial.com.
h 48 minutes et 20 secondes, sur les ondes de radio SBS, vous écoutez le programme en français.
Eh bien, le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue, Raphaël.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous vos auditeurs.
Et je passe immédiatement aux activités culturelles de l'Alliance française d'Adélaïde, l'Alliance française French Film Festival, qui démarre chez vous le 24 mars prochain.
Tout à fait, on est vraiment très 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 heureux de la sélection pour cette année. Le festival à Adélaïde va démarrer le 24 mars et se terminer le 26 avril. Avec une nouveauté cette année, puisque le festival aura également lieu à Victor Harbour, pendant 2 jours, les lundis 4 et lundi 11 avril, avec une petite sélection de 4 films qui seront mis en avant à Victor Harbor. Le principe est évidemment de pouvoir donner accès au festival au plus grand nombre en tenant compte de l'étendue du territoire du South Australia. Et pour cette année, on a effectivement quelques merveilles de films que j'espère tous vos auditeurs auront l'occasion de pouvoir découvrir très prochainement.
Et comme chaque année, Raphaël, il y aura des soirées spéciales, des special events?
Tout à fait. Alors, au niveau national, l'opening et la closing night sont des films qui seront sur tous les territoires. Donc, pour l'opening, ce sont Les Illusions perdues de Xavier Giannoli et qui est évidemment inspiré du livre de Balzac, qui est une œuvre magnifique en costume et très enrichissante au niveau du monde de l'édition et du journalisme en France. C'est un bonheur de regarder ce film qui dure 2h30 et qui est absolument magnifique. Pour la closing night, le film s'appelle Envole-moi. C'est un film de Christophe Baratier. Alors, c'est un de mes coups de cœur. Personnellement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en regardant ce film qui est un feel-good movie, extrêmement riche en termes de relations humaines et la complexité qu'elles peuvent recouvrir. C'est un film qui convient aux familles avec des adolescents, des jeunes adultes, qui en dit beaucoup sur tout ce qu'on peut expérimenter dans la vie et sortir des sentiers battus ou des chemins tout tracés.
Ensuite, on parle des special events.
Ouais, pour Adélaïde, nous avons fait 3 choix particuliers de films qu'on a voulu mettre en avant pour des raisons différentes. Le premier est un film qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavalier. C'est un film qui se passe à Paris au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui aborde le sujet très difficile. Les mots moments pour l'expliquer, voilà, en fait, du gouvernement de Vichy qui se met en place et de la chasse aux Juifs qui est organisée à Paris. C'est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre qui met notamment en scène 3 personnages principaux. Ce que j'aime énormément dans ce film, c'est ce qu'il révèle de complexité dans ce qu'a pu être cette époque sombre de l'histoire, avec 3 personnages qui ne sont pas linéaires, qui sont éminemment complexes, avec des émotions et des profils qui évoluent avec l'histoire du film, qui ont beaucoup de profondeur et qui amènent à une réflexion sérieuse sur ce qu'a pu être cette histoire et comment elle nous interroge en tant qu'individu. Un autre film que nous avons souhaité mettre en avant est un film qui s'appelle La Brigade, qui est une première internationale qui a été réalisée par Louis-Julien Petit, qui est une comédie sociale. Alors, je préfère prévenir vos auditeurs, Jean-Noël, ça n'est pas le film délicieux. Il n'a pas cette légèreté. Il aborde notamment la question des migrants et une révélation qui peut se faire dans le champ de la cuisine, tout ce que la cuisine recouvre, autant en termes d'organisation, de fonctionnement collectif, que de richesse culturelle, notamment par ces migrants et tout ce qu'eux-mêmes apportent de par leur culture dans cet acte culinaire. Un film très beau, très chouette, émouvant. Drôle, mais pas que drôle, mais pareil, qui invite également à une réflexion. Et puis le 3e film qu'on en a souhaité mettre en avant est un film qui s'appelle Goliath, qui a été réalisé par Frédéric Tellier. Alors, encore une fois, c'est un film qui est assez sérieux, qui va mêler le destin de 3 personnages qui n'auraient pas forcément dû se croiser, mais qui vont finir par se croiser liée au sujet des pesticides dans l'agrochimie et l'agroalimentaire. Il y a notamment une activiste, il y a un avocat qui défend une victime, et il y a un lobbyiste. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce film, c'est évidemment la thématique qui interroge tous les publics, et c'est la diversité des points de vue qui sont proposés et qui permettent aussi de construire sa propre pensée et son propre avis sur cette question qui est évidemment complexe. Donc, j'en conviens, les choix d'Adélaïde sont assez sérieux, mais pour moi, c'est l'un des objets du cinéma, de pouvoir porter par le biais d'une fiction une réflexion sur des sujets autant au niveau sociétal qu'au niveau individuel. Alors, c'était nos trois soirées spéciales en plus de l'opening et du closing, donc ce qui nous amène à 5 soirées événements à Adélaïde. Alors, évidemment, là, je vous ai mis en avant 5 films par rapport à une sélection de 42. C'est un tout petit peu, mais après, je parlerai pendant des heures. Je ne peux qu'inviter tous vos auditeurs à se précipiter sur le site officiel de l'Alliance française French Film Festival, de façon à pouvoir découvrir l'ensemble des films. Vous y trouverez tous les bandes-annonces et bien sûr aussi quelques surprises.
J'imagine, Raphaël, qu'il y aura aussi des projections spéciales pour les écoles. Est-ce que c'est organisé à Adélaïde, chez vous ?
Alors, c'est organisé et c'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement. Les restrictions qui courent en ce moment
les écoles.
En South Australia font que les sorties scolaires sont, si ce n'est limitées, enfin, si ce n'est interdites, très limitées. Donc, nous essayons de voir si nous pouvons décaler un peu les school screenings de façon à ce que les écoles puissent en profiter. Et il y a notamment une sélection pour les enfants qui est vraiment riche cette année, jusqu'à 6 films qui pourront s'adresser à tous les âges. Donc, nous espérons vraiment pouvoir donner accès aux écoles à ces projections spéciales.
Raphaël Delaunay, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French et bon festival du film français.
Jean-Noël, je vous remercie infiniment et j'espère effectivement vous voir tous nombreux dans les salles de cinéma.
Merci à vous.
À très bientôt.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Je vous laisse en compagnie de Dani Terreur. Il pleut, elle m'en veut.
C'est l'amour chien qui lèche toutes mes peines. Celle qui hurle au fond de moi. Elle veut une vie que je n'ai pas.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.